Jack London, Gros Blanc. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait sombre et comme menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de givre, semblaient s'accouder les uns sur les autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. La terre n'était qu'une désolation infinie et sans vie, où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée, que la pensée s'enfuyait devant elle au-delà même de la tristesse. Une sorte d'envie de rire s'emparait de l'esprit, rire tragique comme celui du sphinx, rire transi et sans joie, quelque chose comme le sarcasme de l'éternité devant la futilité de l'existence et les vains efforts de notre être. C'était le wild farouche, glacé jusqu'au cœur de la terre du Nord. Sur la glace du fleuve et comme un défi au néant du wild, peinait un attelage de chiens-loups. Leur fourrure hérissée s'alourdissait de neige. À peine sortis de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur pour geler presque aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents comme s'ils avaient écumé des glaçons. Des courroies de cuir sanglaient les chiens et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait assez loin derrière eux, tout cahoté. Le traîneau, sans patins, était formé d'écorces de bouleaux solidement liées entre elles et reposait sur la neige de toute sa surface. Son avant était recourbé en forme de rouleau, afin qu'il rejetât sous lui, sans s'y enfoncer, l'amas de neige molle qui accumulait ses vagues moutonnantes. Sur le traîneau était fortement attachée une grande boîte, étroite et oblongue, qui prenait presque toute la place. À côté d'elle se tassaient divers autres objets, des couvertures, une hache, une cafetière et une poêle à frire. Devant les chiens, sur de larges raquettes, peinait un homme, et derrière le traîneau, un autre homme. Dans la boîte qui était sur le traîneau, en gisait un troisième dont le souci était fini. Celui-là, le Wild l'avait abattu, et si bien qu'il ne connaîtrait jamais plus le mouvement et la lutte. Le mouvement répugne au Wild, et la vie lui est une offense. Il congèle l'eau pour l'empêcher de courir à la mer. Il glace la sève sous l'écorce puissante des arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, et plus férocement encore, plus implacablement, il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser. Car l'homme est le plus agité de tous les êtres, jamais en repos et jamais là, et le wild est le mouvement. Cependant, en avant et en arrière du traîneau indomptable et sans perdre courage, trimaient les deux hommes qui n'étaient pas encore morts. Ils étaient vêtus de fourrure et de cuir souple, tanné. Leur haleine, en se gelant comme celle des chiens, avait recouvert de cristallisation glacée leurs paupières, leurs joues, leurs lèvres, toute leur figure, si bien qu'il eût été impossible de les distinguer l'un de l'autre. On eût dit des croque-morts masqués conduisant en un monde surnaturel les funérailles de quelques fantômes. Mais sous ce masque, il y avait des hommes qui avançaient malgré tout sur cette terre désolée, méprisant de sa railleuse ironie et dressés, quelque chétifs qu'ils fussent, contre la puissance d'un monde qui leur était aussi étranger, aussi hostile et aussi impassible que l'abîme infini de l'espace. Ils avançaient, les muscles tendus, évitant tout effort inutile et ménageant jusqu'à leur souffle. Partout autour d'eux était le silence qui les écrasait de son poids lourd, comme pèse l'eau sur le corps du plongeur au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus avant, aux profondeurs de l'océan. Une heure passa, puis une deuxième heure. La blême lumière du jour, lumière sans soleil, était près de s'éteindre, quand un cri s'éleva soudain, faible et lointain, dans l'air tranquille. Ce cri se mit à grandir par saccades jusqu'à ce qu'il eût atteint sa note culminante. Il persista alors durant quelque temps, puis il cessa. Sans la sauvagerie farouche dont il était empreint, on aurait pu le prendre pour l'appel d'une âme errante. C'était une clameur ardente et bestiale, une clameur affamée et qui requérait une proie. L'homme, qui était devant, tourna la tête jusqu'à ce que son regard se croisât avec celui de l'homme qui était derrière. Par-dessus la boîte oblongue que portait le traîneau, tous deux se firent un signe. Un second cri perça le silence. Les deux hommes en situèrent le son. C'était en arrière d'eux, quelque part, en la neigeuse étendue qu'ils venaient de traverser. Un troisième cri répondit aux deux autres. Il venait aussi de l'arrière et s'élevait vers la gauche du second cri. « Ils sont après nous, Bill !» dit l'homme qui était devant. Sa voix résonnait rude et comme irréelle, il semblait avoir fait un effort pour parler. « La viande est rare !» repartit son camarade. « Je n'ai pas depuis plusieurs jours vu seulement la trace d'un lièvre. » Ils se turent ensuite, mais leur oreille demeurait tendue vers la clameur de chasse qui continuait à monter derrière eux. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, ils dételèrent les chiens et les parquèrent au bord du fleuve dans un boqueteau de sapin. Puis, à quelque distance des bêtes, ils installèrent le campement. Près du feu, le cercueil servit à la fois de siège et de table. Les chiens loups grondaient, se querellaient entre eux, mais sans chercher à fuir et à se sauver dans les ténèbres. « Il me semble, Henri, qu'il demeure singulièrement fidèle à notre compagnie, » observa Bill. Henri, penché sur le feu et occupé à faire fondre un peu de glace pour préparer le café, approuva d'un signe. S'étant ensuite assis sur le cercueil, ayant commencé à manger, « Ils savent, » dit-il, « que près de nous leurs peaux sont sauves. Ils préfèrent manger plutôt que d'être mangés. » « Ces chiens ne manquent pas d'esprit. » Bill secoua la tête. « Oh, l'on sait rien. » Son camarade le regarda avec étonnement. « C'est la première fois, Bill, que j'entends suspecter l'intelligence des chiens. »« As-tu remarqué, » reprit l'autre en mâchant des fèves avec énergie, « comme ils se sont agités quand je leur ai apporté leur dîner. Combien as-tu de chiens, Henri ?»«
6. »«
Bien, Henri. » Bill s'arrêta un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles. « Bon, nous disions que nous avions 6 chiens. J'ai pris 6 poissons dans le sac et j'en ai donné un à chaque chien. Eh bien, je me suis trouvé à court d'un poisson. » « T'as mal compté. » « Nous possédons 6 chiens, » poursuivit Bill avec calme. « J'ai pris 6 poissons et n'a qu'une oreille, il n'y en a pas eu. » Alors je suis revenu au sac et j'y ai pris un 7e poisson que je lui ai donné. « Mais nous n'avons que 6 chiens, » répliqua Henri. « Je n'ai pas dit qu'il n'y avait là que des chiens, mais qu'ils étaient 7 convives à qui j'ai donné du poisson. » Henri s'arrêta de manger et par-dessus le feu compta de loin les bêtes. « En tout cas, » observa-t-il, « ils ne sont que 6 à présent. » J'ai vu le 7e convive s'enfuir à travers la neige. Henri regarda Bill d'un air de pitié, puis déclara « Oh, je serai fort satisfait quand ce voyage aura pris fin. » Qu'entends-tu par là ? J'entends que l'excès de nos peines influe durement sur les terres et que tu commences à voir des choses. Mais c'est ce que je me suis dit tout à bord, riposta Bill avec gravité. Mais les traces laissées derrière lui par le 7e animal sont encore marquées sur la neige. Je te les montrerai si tu le désires. » Henri ne répondit point et se remit à manger en silence. Lorsque le repas fut terminé, il arrosa d'une tasse de café et s'essuyant la bouche du revers de sa main. « Alors, Bill, tu crois que cela était... » Jaillissant de l'obscurité, à la fois lamentable et sauvage, un long cri d'appel l'interrompit. Il se tut pour écouter, étendant la main dans la direction d'où le cri était issu. « Mais c'est un d'eux, dit-il, qui est venu. » Bila prouva de la tête. « Bon, je donnerai gros pour pouvoir penser autrement. Tu as remarqué toi-même quel vacarme ont fait les chiens ?» Cris et cris, après cris, se répondant de près, de loin, de tous côtés, semblait avoir mué tout à coup le Wild dans une maison de fous. Les chiens, effrayés, avaient rompu leurs attaches et étaient venus se tasser les uns contre les autres autour du foyer, si près que leurs poils en étaient roussis par la flamme. Bill jeta du bois dans le brasier, alluma sa pipe, et après en avoir tiré quelques bouffées, « Je songe, Henri, que celui qui est là-dedans, » et il indiquait de son pouce la boîte sur laquelle ils étaient assis, « diantrement plus heureux que toi et moi, nous ne serons jamais. Au lieu de voyager aussi confortablement après notre mort, aurons-nous seulement un jour quelques pierres sur notre carcasse ? Ce qui me dépasse, c'est qu'un gaillard comme celui-ci, qui était dans son pays un lord ou quelque chose d'approchant, et qui n'a jamais eu à trimarder pour la niche et la pâtée, est une idée de venir traîner ses guettes sur cette fin de terre abandonnée de Dieu. Cela, en vérité, je ne puis le comprendre exactement. Il aurait pu se faire de vieux os s'il était demeuré chez lui, approuva Henri. Bill allait continuer la conversation, quand il vit dans le toit mur de nuit qui se pressait sur eux et où toute forme était indistincte, une paire d'yeux brillants comme des braises. Il la montra à Henri, qui lui en montra une seconde, puis une troisième. Un cercle d'yeux étincelants les entourait. Par moments, une de ces paires d'yeux se déplaçait ou disparaissait pour apparaître à nouveau l'instant d'après. La terreur des chiens ne faisait que croître. Ils bondissaient affolés autour du feu, où venait en rampant se tapir entre les jambes des deux hommes. Au milieu de la bousculade, l'un d'eux bascula dans la flamme. Il se mit à pousser des hurlements plaintifs, tandis que l'air s'imprégnait de l'odeur de sa fourrure brûlée. Ce remue-ménage fit se disperser le cercle de prunelles qui se reforma une fois l'incident terminé et les chiens calmés. « C'est, dit Bill, oh, une fichue situation de se trouver à court de munitions !» Il avait achevé sa pipe et aidait son compagnon à étendre un lit de couverture et de fourrure sur les branches de sapin préalablement disposées sur la neige. Tout en commençant à délacer ses mocassins de peau de daim, Henri grogna. « Combien dis-tu, Bill, qu'il nous reste de cartouches ?»« Trois, et je voudrais qu'il y en eût 300. Je leur montrerai alors quelque chose à ces damnés. » Il secoua son poing avec colère vers les yeux luisants. Puis, ayant enlevé à son tour ses mocassins, il les disposa soigneusement devant le feu. « Ben, je voudrais bien aussi que ce froid soit coupé net. Nous avons eu 500 sous zéro depuis 2 semaines. Putain Dieu que nous n'eussions pas entrepris cette expédition. J'aime pas la tournure qu'elle prend. Ça cloche, je le sens. » Mais puisqu'il est entamé, qu'elle se termine au plus vite et qu'il n'en soit plus question. Heureux le jour où toi et moi, nous nous retrouverons au Fort McCray, tranquillement assis auprès du feu et jouant aux cartes. Voilà mes souhaits. » Henri poussa un nouveau grognement et se glissa sous la couverture. Comme il allait s'endormir, Bill l'interpella avec vivacité. « Dis-moi, Henri, c'est un truc qui est venu se joindre à nos bêtes et attraper un poisson. Pourquoi, dis-moi, les chiens ne lui en sont-ils pas tombés dessus ? C'est là ce qui me tourmente. »« Oh, tu te fais, Bill, beaucoup de tracas, » répondit Henri d'une voix ensommeillée. « T'étais pas assis autrefois. Tu digères mal, je pense. Elle est assez pérorée. Dors, sinon tu seras demain fort mal en point. » « Tu te mets sans raison la cervelle à l'envers. » Là-dessus, les deux compagnons s'assoupirent. Ils soufflaient lourdement, côte à côte, sous la même couverture. Le feu tomba peu à peu, et les yeux brillants resserrèrent le cercle qu'il traçait. Dès que deux d'entre eux s'avançaient plus près, les chiens grondaient, apeurés et menaçants à la fois. À un moment, leurs cris devinrent si forts que Bill s'éveilla. Il sortit des couvertures avec précaution afin de ne pas troubler le sommeil de son camarade et renouvela le bois du foyer. Dès que la flamme se fut élevée, le cercle d'yeux recula. Bill jeta un regard sur le groupe des chiens. Puis, s'étant frotté les paupières, il se reprit à les regarder avec plus d'attention. Après quoi, s'étant coulé sous la couverture, « Henri, oh, Henri !» Henri gémit, comme fait quelqu'un que l'on réveille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » interrogea-t-il. « Non, rien, mais je viens de les compter. Ils sont encore 7. » Henri reçut cette communication sans se troubler, et quelques instants après, il ronflait à point fermé. C'est lui qui, le matin venu, s'éveilla le premier et tira hors des couvertures son compagnon. Il était 6 heures, mais le jour ne devait point naître avant que 3 heures se fussent écoulées. Dans l'obscurité, il se mit à préparer le déjeuner, tandis que Bill roulait les couvertures et disposait le traîneau pour le départ. « Dis-moi, Henri, demanda-t-il soudainement, combien de chiens prétendus que nous avons ?»« 6. »« Erreur !» s'exclama Bill, triomphant. « 7 de nouveau ?» questionna Henri. « Non, 5. 1 est parti. »« Enfer !» cria Henri avec colère. Et quittant sa besogne pour venir compter ses chiens, « Tu as raison, Bill, Boule de Suif est parti. » Mais il s'est éclipsé avec la rapidité d'un éclair, la fumée nous aura caché sa fuite. « Oh, c'est pas de chance pour lui ni pour nous. Ils l'auront avalé vivant. » Je parie qu'ils hurlaient comme un damné en descendant dans leur gosier. Malédiction sur eux. Oh, ce fut toujours un chien fou, observa Bill. Bon, si fou qu'il soit, comment un chien a-t-il été assez fou pour se suicider de la sorte? Henri jeta un coup d'œil sur les survivants de l'attelage, supputant mentalement ce que l'on pouvait pénétrer de leur caractère et de leurs aptitudes. Pas un de ceux-ci, je le jure bien, ne consentirait à en faire autant. On frapperait dessus à coups de bâton qu'il refuserait de s'éloigner. J'ai toujours pensé, je le répète, dit Bill, que Boule de Suif avait la cervelle tant soit peu fêlée. Telle fut leur raison funèbre d'un chien mort en cours de route sur une piste de la terre du Nord. Combien d'autres chiens, combien d'hommes n'en ont pas même une semblable? Chapitre 2 La Louve. Le déjeuner terminé et le rudimentaire matériel du campement rechargé sur le traîneau, les deux hommes tournèrent le dos au feu joyeux et poussèrent de l'avant dans les ténèbres qui n'étaient point encore dissipées. Les cris d'appel funèbres et féroces continuaient à retentir et à se répandre dans la nuit et le froid. Ils se turent quand le jour à 9 heures commença à paraître. À midi, le ciel vers le sud parut se réchauffer et se teignit de couleur rose. Puis se dessina la ligne de démarcation que met la rondeur de la terre entre le monde du nord et les pays méridionaux où luit le soleil. Mais la couleur rose se fana rapidement. Un jour gris lui succéda, qui dura jusqu'à 3 heures, pour disparaître à son tour, et le pâle crépuscule arctique redescendit sur la terre solitaire et silencieuse. Lorsque l'obscurité fut revenue, les cris de chasse recommencèrent à droite, à gauche, provenant de folles paniques parmi les chiens, tout harassés qu'ils étaient. « Je voudrais bien, » dit Bill en remettant pour la 20e fois les chiens dans le droit sentier, qui s'en aille au diable et nous laisse tranquilles. Ben, il est certain qu'il nous horripile terriblement, approuva Henri. Le campement fut dressé comme le soir précédent. Henri surveillait la marmite où bouillaient des fèves, lorsqu'un grand cri, poussé par Bill et accompagné d'un autre cri aigu, de douleur, celui-là, le fit sursauter. Il releva la nez, juste à temps pour voir une forme vague qui courait sur la neige et disparaissait dans le noir. Puis il aperçut Bill, qui était debout au milieu des chiens, mi-joyeux, mi-contrit, tenant d'une main un fort gourdin, de l'autre la queue et une partie du corps d'un saumon desséché. « Ben, j'en ai sauvé que la moitié, » dit Bill. « Mais le voleur l'a reçu pour le reste. L'entends-tu hurler ?»« Et quelle forme avait-il, ce voleur ?» demanda Henri. « Ben, j'ai pu le bien voir, mais ce que je sais, c'est qu'il a quatre pattes, une gueule et une fourrure qui ressemble à celle d'un chien. Ben, ce doit être, j'en jurerais, un loup apprivoisé. » « Diantrement apprivoisé, en ce cas, pour en être venu ici au moment juste du dîner et emporter un morceau de poisson. » Assis sur la boîte oblongue, les deux hommes, après avoir mangé, avaient humé leur pipe comme ils en avaient l'habitude. Le cercle d'yeux flamboyant vint les entourer comme la veille, mais plus proche. Bill se reprit à gémir. « Oh, Dieu veuille qu'il tombe sur une bande d'élans ou sur quelque autre gibier et qu'il décampe à sa suite. Oh, ce serait pour nous un débarras !» Henri eut l'air de n'avoir pas entendu, mais comme Bill faisait mine de recommencer ses plaintes, il se fâcha tout. « J'arrête, Bill, tes coassements. Tu as des crampes d'estomac, je te l'ai déjà dit, et c'est ce qui te fait divaguer. Allez, avale une pleine cuillerée de bicarbonate de soude, cela te calmera. » « Je t'assure, et tu en deviendras d'une plus plaisante compagnie. » Le matin suivant, d'énergiques blasphèmes proférés par Bill réveillèrent Henri. Celui-ci se souleva sur son coude, et la lueur du feu qui resplendissait vit son camarade entouré des chiens qui agitaient dramatiquement ses bras et se livraient aux plus affreuses grimaces. « Hello !» appela Henri. Qu'y a-t-il de nouveau ? Grenouille a décampé, répondit Bill. Non ! Oh, je dis oui ! Henri sauta hors des couvertures et alla vers les chiens. Il les compta avec soin, après quoi il se joignit à Bill pour maudire les pouvoirs malfaisants du Wild qui lui avait ravi un autre chien. « Grenouille était le plus vigoureux de la troupe, » prononça Bill. Et celui-là n'était pas un chien fou, » ajouta Henri. Telle fut en deux jours la seconde raison funèbre. Le déjeuner fut mélancolique, et les quatre chiens qui restaient furent attelés au traîneau. La journée ne différa pas de la précédente. Les deux hommes peinaient sans parler. Le silence n'était interrompu que par les cris qui les poursuivaient et s'attachaient à leur marche. Même panique des chiens, mêmes écarts de leur part hors du sentier tracé, et même lassitude physique et morale des deux hommes. Quand le campement eut été établi, Bill, à la mode indienne, enroula autour du cou des chiens une solide lanière de cuir à laquelle était lié à son tour un bâton de 5 à 6 pieds de long. Le bâton, à son autre extrémité, était attaché par une seconde lanière à un pieu fiché en terre. De chaque côté, les joints étaient si serrés que les chiens ne pouvaient mordre le cuir et le ronger. « Regarde, Henri, » dit Bill avec satisfaction, « si j'ai bien travaillé. Ces imbéciles seront forcés de se tenir tranquilles jusqu'à demain. S'il en manque un seul à l'appel, je vais me passer le bon café. » Henri trouva que c'était parfait ainsi. Mais montrant à Bill le cercle d'ardentes prudelles qui pour la troisième soir les enserrait, « Dommage, tout de même, » fit-il, « de ne pouvoir flanquer à ceux-ci quelques bons coups de fusil. Ils ont compris que nous n'avions pas de quoi tirer, aussi deviennent-ils de plus en plus hardis. » Les deux hommes furent quelque temps avant de s'endormir. Ils regardaient les formes vagues aller et venir hors de la frontière de lumière que marquait le feu. En observant avec attention les endroits où une paire d'yeux apparaissait, Il finissait par percevoir la silhouette de l'animal qui se dessinait et se mouvait dans les ténèbres. Un remue-ménage qui se produisait parmi les chiens les fit se détourner de leur côté. Naqu'une oreille gémissait et, geignant avec des cris aigus, tirait de toutes ses forces dans la direction de l'ombre, sur son bâton qu'il mordait frénétiquement et à pleines dents. « Bill, regarde ceci !» chuchota Henri. Dans la lumière du feu, un animal, semblable à un chien, se glissait d'un mouvement oblique et furtif. Il paraissait en même temps audacieux et craintif, observait les deux hommes avec précaution et cherchait visiblement à se rapprocher des chiens. Naqu'une oreille s'aplatissait vers lui sur le sol, redoublait ses gémissements. « C'est une louve !» murmura Henri. « Elle sert d'appât pour la meute. Quand elle a attiré un chien à sa suite, toute la bande tombe dessus et le mange. » Au même moment, une des bûches empilées sur le feu dégringola en éclatant avec bruit. Effaré, l'étrange animal fit un saut en arrière et disparut dans les ténèbres. « Je pense une chose, » dit Bill. « Laquelle, s'il te plaît ?» C'est que l'animal, vu par nous, est le même que celui qui a été rossé par mon gourdin. Oui, il n'y a pas le plus léger doute sur ce point. Il convient en outre de remarquer, poursuivit Bill, que sa familiarité excessive avec la flamme de notre foyer n'est pas naturelle et choque toutes les idées reçues. Ce loup en connaît certainement plus qu'un loup qui se respecte en doit connaître, confirma Henri. Il n'ignore pas non plus l'heure du repas des chiens. Cet animal a de l'expérience. Le vieux Villan, dit Bill en se parlant tout haut à lui-même, possédait un chien qui avait coutume de s'échapper pour aller courir avec les loups. Nul ne le sait mieux que moi, car je le tuai un beau jour dans un pacage d'élan sur Lytleskirk. Le vieux Villan en pleura comme un enfant qui vient de naître. Il n'avait pas vu ce chien depuis 3 ans. Tout ce temps, la bête était demeurée avec les loups. « Je pense, opina Henri, que tu as trouvé la vérité. Ce loup est un chien. Il y a longtemps qu'il mange du poisson de la main de l'homme. »« Si j'ai quelque chance, déclara Bill, nous aurons la peau de ce loup qui est un chien. Nous ne pouvons pas continuer à perdre d'autres bêtes. » « Ah oui, mais souviens-toi qu'il ne nous reste plus que 3 cartouches. »« Oui, je le sais, et je les réserve pour un coup sûr. » Henri, au matin, ayant ranimé le feu, fit cuire le déjeuner, accompagné dans cette opération par les ronflements sonores de son camarade. Il le réveilla seulement lorsque les aliments furent prêts. Bill commença à manger, dormant encore. Ayant remarqué que sa tasse à café était vide, il se pencha pour atteindre la cafetière. Mais celle-ci était du côté d'Henri et hors de sa portée. « Dis-moi, Henri, » interrogea-t-il avec un petit grognement d'amitié, « n'as-tu rien oublié de me donner ?» Henri fit mine de regarder autour de lui et secoua la tête. Bill avança sa tasse vide. « Non, tu n'auras pas de café ?» prononça Henri. « Aurait-il été renversé ?» demanda Bill avec anxiété. « Non, c'est pas cela. Mais si tu m'en refuses, tu vas arrêter ma digestion. Tu n'en auras pas. » Un flux de sang et de colère monta au visage de Bill. « Bien, veux-tu, je te prie, parler et t'expliquer. Gros gaillard est parti. » Lentement, avec la résignation du malheur, Bill tourna la tête et compta les chiens. « Mais comment cela est-il arrivé ? » demanda-t-il anéanti. Ben, « je l'ignore. Gros gaillard ne pouvait assurément ronger lui-même la lanière qu'il attachait au bâton. N'a qu'une oreille, lui aura rendu sans doute ce service. »« Le damné chien !» dit Bill. « Ah oui, ne pouvant se libérer, il a libéré son compère. »« Mais ben, en tout cas, c'en est fini maintenant de gros gaillard. » Je suppose qu'il est déjà digéré et qu'il se cahote en ce moment dans le ventre de 20 loups différents. Cette troisième raison funèbre prononcée, Henri poursuivit. « Maintenant, Bill, veux-tu du café ?» Bill fit un signe négatif. « C'est bien certain, » insista Henri en levant la cafetière. « Il est pourtant bon. » Mais Bill était têtu. Il mit sa tasse à l'écart. « J'aimerais mieux, dit-il, être pendu. J'ai donné ma parole et je la tiendrai. » Il absorba son déjeuner à sec et ne l'arrosa que de malédictions à l'adresse de Nacune Oreille qui lui avait joué ce mauvais tour. « Cette nuit, dit-il, je les attacherai mutuellement hors de leur atteinte. » Les deux hommes avaient repris leur marche. Ils n'avaient pas cheminé de plus de 100 mètres dans l'obscurité qu'Henri, qui allait devant, heurta du pied un objet qu'il ramassa et qu'il lança, s'étant retourné dans la direction de Bill. « Tiens, Bill, dit-il, voilà quelque chose qui pourra t'être utile. » Bill poussa une exclamation. C'était tout ce qui restait de gros gaillard, le bâton auquel il avait été attaché. « Ils l'ont dévoré en entier, dit Bill, les os, les côtes, la peau et tout. Le bâton même est aussi net que le dessus de ma main. Ils ont mangé le cuir qu'ils garnissaient à ses deux bouts. Bon, ils ont l'air terriblement affamés. Pourvu que toi et moi nous ne subissions pas un sort identique avant d'être parvenus au terme de notre voyage. » Henri se mit à rire. « C'est la première fois, dit-il, que je suis ainsi pisté par des loups. Mais j'ai connu d'autres dangers et m'en suis tiré sain et sauf. Prends ton courage à deux mains et ne crains rien. Ils ne nous auront pas, mon fils. » Mais là, ce qu'on ne sait pas, oui, ce qu'on ne sait pas. Tu es pâle et tu as une mauvaise circulation du sang. Il te faudrait de la quinine. Je t'embourrerai quand nous serons arrivés. » Le jour fut, une fois de plus, semblable au jour précédent. Apparition de la lumière à 9 heures, à midi le reflet lointain vers le sud du soleil invisible, puis le gris après-midi précédant la nuit rapide. À l'heure où le soleil esquissait son faible effort, Bill prit le fusil dans le traîneau et dit « Ben, je vais aller voir Henri, ce que je puis faire. Mais sois prudent et garde-toi qu'il ne t'arrive malheur. » Bill s'éloigna dans la solitude. Il revint, 1 heure après, vers son compagnon qui l'attendait avec une certaine anxiété. « Ben, ils se sont éparpillés, raconta-t-il. Héros au large de nous, courant de ci de là, mais sans nous lâcher. Ils savent qu'ils sont sûrs de nous avoir et qu'il leur suffit de patienter. En attendant, ils tâchent de se mettre quelque autre chose sous la dent. « Tu prétends, observa Henri, qu'ils sont sûrs de nous avoir ?» Bill fit semblant de ne pas avoir entendu et continua. « J'en ai aperçu quelques-uns. Ils sont maigres à faire peur. » Ils n'ont pas mangé un morceau depuis des semaines, en dehors, bien entendu, de nos 3 chiens. Il y en a parmi eux qui n'iront pas loin. Leurs flancs sont pareils à des planches à laver, et leurs estomacs remontés collent presque à l'épine dorsale. Ils en sont, je puis te le dire, à la dernière phase de la désespérance. Ils sont admis, enragés, et attendent. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées, quand Henri, qui avait pris la place d'arrière et poussait le traîneau afin d'aider les chiens, jeta vers Bill, en guise d'appel, un sifflement étouffé. Derrière eux, en pleine vue et sur la même piste qu'ils venaient de parcourir, s'avançait, le nez collé contre le sol, une forme velue. La bête trottinait sans effort apparent, semblant glisser plutôt que courir. Les deux hommes s'étant arrêtés, elle s'arrêta ainsi qu'eux. Ayant levé la tête, elle les regarda avec fixité, dilatant son nez frémissant, en reniflant le rôdeur comme pour se faire d'eux une opinion. « C'est la louve !» dit Bill. Les chiens s'étaient couchés sur la neige et Bill vint derrière le traîneau rejoindre son camarade. Ensemble, ils examinèrent l'étrange animal qui les suivait depuis plusieurs jours et qui leur avait déjà soufflé la moitié de leur attelage. Ils le virent trotter encore en avant de quelques pas, puis s'arrêter, puis recommencer à diverses reprises le même manège, jusqu'à ce qu'il ne se trouvât plus qu'à une courte distance. Alors il fit halte, la tête dressée, près d'un groupe de sapins, et se remit à observer les deux hommes. Il les considérait avec une insistance singulière, comme eût pu le faire un chien, mais sans qu'il y eût rien dans ses yeux du regard affectueux de l'ami de l'homme. Cette insistance était celle de la faim. Elle était implacable, comme les crocs de la bête, aussi inhumaine que la neige et le froid. L'animal était plutôt grand pour un loup, et ses formes décharnées dénotaient un des spécimens les plus importants de l'espèce. Il doit mesurer près de 2,5 pieds à hauteur d'épaule, constata Henri, et n'a pas moins de 5 pieds de long. Il a une drôle de couleur pour un loup, dit Bill. Je n'en ai jamais vu de pareil. Sa robe tire sur le rouge et même sur l'oranger. Elle a un ton cannelle. La robe de la bête n'était point cependant de cette couleur, et le gris dominait comme chez tous les loups. Mais de fugitifs et indéfinissables reflets qui trompaient et illusionnaient la vue couraient par moments sur le poil. « On dirait un rude et gros chien de traîneau, » poursuivit Bill. « Je ne serais pas autrement étonné de voir cet animal remuer la queue. »« Hé, gros chien, » appela-t-il, « amène-toi, quel que tu sois. »« Il n'a pas la moindre peur de toi, » dit Henri en riant. Bill agita sa main, fit semblant de menacer, cria à tue-tête. La bête ne manifesta aucune crainte et se contenta de se mettre légèrement en garde. Elle ne cessait point de dévisager les deux hommes avec une fixité affamée. Son désir évident était, si elle l'eût osé, de venir à cette viande et de s'en repaître. « Écoute, Henri, » dit Bill en baissant la voix très bas, « voici le cas d'utiliser nos 3 cartouches. Mais il ne faut point manquer le coup et qu'il soit mortel, qu'en penses-tu » Henri approuva et Bill, avec 1000 précautions, amena à lui le fusil. Mais à peine avait-il fait le geste de le lever vers son épaule que la louve, faisant un saut de côté hors de la piste, disparut parmi les sapins. Les deux compagnons se regardèrent. Henri sifflota d'un air entendu et Bill, se morigénant lui-même, remit en place le fusil. « Je devais m'y attendre, » dit-il. « Un loup assez instruit pour venir partager le dîner de nos chiens doit être également renseigné sur les coups de fusil. Sa science est la cause de tous nos malheurs. » Mais je le démolirai aussi sûr que mon nom est Bill. Puisqu'il est trop rusé pour être tué à découvert, j'irai le tirer à l'affût. Oh, si tu veux tenter de l'abattre, fais-le d'ici, conseilla Henri. Que la bande survienne autour de toi, en admettant que les 3 cartouches tuent 3 bêtes, les autres te régleront ton compte. Ce soir-là, on campa de bonne heure. Les 3 chiens survivants avaient remarqué moins vite le traîneau et avaient été là plus tôt. Les 2 hommes ne dormirent que d'un œil. Le cercle d'ennemis s'était resserré encore. Sans cesse, il fallait se relever pour attiser le feu afin que la flamme ne tombât point. « J'ai entendu des marins, » dit Bill, « me parler des requins qui ont coutume de suivre les navires. » Les loups sont les requins de la terre. Ils s'y connaissent mieux que nous dans leurs affaires. Ils savent que bientôt ils nous auront. Mais ils t'ont déjà à moitié, remarqua Bill avec rudesse, toi qui te laisses aller à parler ainsi. C'en est fait d'un homme de l'instant où il se déclare perdu. Tu es rien qu'en le disant à demi mangé. Allez, assez croassé. Tu m'excèdes plus que de raison. Henri tourna brusquement le dos à Bill, et il s'attendait à ce que celui-ci avec le caractère emporté qu'il lui connaissait, s'irrita du ton tranchant de ses paroles. Mais Bill ne répondit rien. « Mauvais présage !» songea Henry, dont les paupières se fermaient malgré lui. « Il n'y a pas à s'y tromper, le moral de Bill est gravement entamé. Oh, j'aurai fort à faire demain matin pour retaper ce garçon. » Chapitre 3. Le cri de la faim. La journée débuta sous de meilleurs auspices. Les deux hommes n'avaient pas perdu de chien durant la nuit, et c'est l'esprit plus léger qu'ils se remirent en chemin dans le silence, le noir et le froid. Bill semblait avoir oublié ses sinistres pressentiments, et quand à midi les chiens renversèrent le traîneau à un mauvais passage, c'est en plaisantant qu'il accueillit l'accident. C'était pourtant un effrayant pêle-mêle. Le traîneau, sans dessus-dessous, demeurait entre le tronc d'un arbre et un énorme roc. Il fallut d'abord déharnacher les chiens afin de les dégager et de démêler leurs traits. Ceci fait, et tandis que les deux hommes s'occupaient à remettre sur pied le traîneau, Henry aperçut n'a qu'une oreille qui était en train de se défiler en rampant. « Ici, toi, n'a qu'une oreille !» cria-t-il en se retournant vers le chien. Mais au lieu de lui obéir, le chien fit un bond en avant et se sauva en courant de toutes ses forces, ses harnais traînant derrière lui. Tout là-bas, sur la piste, la louve l'attendait. En s'approchant d'elle, il parut soudain hésiter et ralentit sa course. Il la regardait fixement, avec crainte et désir à la fois. Elle semblait l'aguicher et lui sourire de toutes ses dents, puis en matière d'avance fit un pas vers lui. N'a qu'une oreille se reprocha, mais en se tenant encore sur ses gardes, la tête dressée, les oreilles et la queue droite. Quand il l'eut jointe, il essaya de frotter son nez contre le sien, mais elle se détourna avec froideur et fit un pas en arrière. Elle répéta plusieurs fois sa manœuvre, comme pour l'entraîner loin de ses compagnons humains. À un moment, on eût dit qu'une vague conscience du sort qui l'attendait flottait dans la cervelle de chien, n'a qu'une oreille, s'étant retournée, regarda derrière lui ses deux camarades de trait, le traîneau renversé et les deux hommes qui l'appelaient. Mais la louve, lui ayant tendu son nez pour qu'il s'y frottât, il en oublia aussitôt toute autre idée et se reprit à la suivre au bout de quelques minutes, dans un prudent et nouveau recul qu'elle effectua. Pendant ce temps, Bill avait songé au fusil. Mais celui-ci était pris sous le traîneau, et quand, avec l'aide d'Henri, il eut mis la main dessus, le chien et la louve étaient trop éloignés de lui, trop près aussi l'un de l'autre, pour qu'il pût tirer. N'a qu'une oreille connut trop tard son erreur. Les deux hommes le virent qui revenait vers eux à fond de train. Mais déjà, une douzaine de loups maigres, bondissant dans la neige, fonçaient angle droit sur le chien afin de lui couper la retraite. De son côté, la louve avait cessé ses grâces et s'était jetée sur lui avec un rauque grognement. Il l'avait bousculée d'un coup d'épaule et elle s'était jointe aux autres poursuivants. Elle le talonnait de près. « Mais où vas-tu ? » cria Henry en posant sa main sur le bras de Bill. Bill se dégagea d'un mouvement brusque. « Oh, je ne puis, dit-il, supporter ce qui se passe. Ils ne doivent plus avoir aucun de nos chiens, si je puis l'empêcher. » Le fusil au poing, il s'enfonça dans les taillis qui bordaient le sentier. « Attention, Bill !» lui jeta Henry une dernière fois. « Sois prudent !» Assis sur le traîneau, Henry vit disparaître son compagnon. N'a qu'une oreille avait quitté la piste et tentait de rejoindre le traîneau en décrivant un grand cercle. Henry l'apercevait par instants, détalant à travers des sapins clairsemés et s'efforçant de gagner les loups de vitesse, tandis que Bill allait essayer, sans nul doute, d'enrayer la poursuite. Mais la partie était perdue d'avance, d'autant que de nouveaux loups, sortant de partout, se joignaient à la chasse. Tout à coup, Henry entendit un coup de fusil, puis deux autres succédaient rapidement au premier, et il connut que la provision de cartouches de Bill était finie. Il y eut un grand bruit, des grondements et des cris. Henry reconnut la voix du chien qui gémissait et hurlait. Un cri de loup lui annonça qu'un des animaux avait été atteint. Et ce fut tout. Gémissements et grognements moururent et le silence retomba sur le paysage solitaire. Henry demeura longtemps assis sur le traîneau. Bon, il n'avait pas besoin d'aller voir ce qui était advenu. Cela, il le savait comme s'il eût été spectateur. Pourtant, à un moment, il se dressa en tressaillant et, avec une hâte fébrile, chercha la hache qui était parmi les bagages. Puis, en songeant longuement, il se rassit en compagnie des deux chiens qui lui restaient et qui, couchés et tremblants, demeuraient à ses pieds. En proie à une immense faiblesse, comme si toute force de résistance s'était anéantie en lui, il finit par se lever et se mit en devoir d'atteler les chiens au traîneau, qu'il tira lui-même de concert avec les deux bêtes, après avoir passé un harnais d'homme sur son épaule. L'étape fut courte. Dès que le jour commença à baisser, Henry se hâta d'organiser le campement. Il donna aux chiens leur nourriture, fit cuire et mangea son dîner, puis dressa son lit près du feu. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'il vit les loups arriver et cette fois s'avançaient tellement près qu'il n'y avait pas à songer même à dormir. Ils étaient là autour de lui, si peu loin qu'il pouvait les regarder comme en plein jour, couchés ou assis autour du foyer, rampant sur leur ventre, tantôt avançant et tantôt reculant. Certains d'entre eux dormaient, couchés en rond dans la neige, comme des chiens. Il ne cessa pas un seul instant d'aviver la flamme, car il savait qu'elle était le seul obstacle entre sa chair et leur croc. Les deux chiens se pressaient contre lui, implorant sa protection. De temps à autre, le cercle des loups s'agitait. Ceux qui étaient couchés se relevaient et tous hurlaient en chœur. Puis ils se recouchaient ou s'asseyaient, le cercle se reformant plus près. Cependant, à force d'avancer d'un pouce puis d'un autre pouce, un instant arriva où les loups se touchaient presque. Alors il prit des brandons enflammés et commença à les jeter dans le tas de ses ennemis. D'un saut hâtif, accompagné de cris de colère et de grognements, peureux, ceux-ci bondissaient en arrière quand une branche bien lancée atteignait l'un d'eux. Le matin trouva l'homme hagard et brisé, les yeux dilatés par le manque de sommeil. Il cuisina et absorba son déjeuner. Puis quand la lumière eut dispersé la troupe des loups, il s'occupa de mettre à exécution un projet qu'il avait médité durant les longues heures de la nuit. Ayant abattu à coups de hache de jeunes sapins, il en fit, en les liant en croix, les traverses d'un échafaudage assez élevé dont quatre autres grands sapins restés debout formèrent les montants. Se servant ensuite des courroies du traîneau comme de cordes et les chiens tirant avec lui, il hissa au sommet de l'échafaudage le cercueil qu'il avait convoyé. « Ils ont tué Bill, » dit-il en s'adressant au corps du mort quand celui-ci fut installé dans sa sépulture aérienne. « Et ils mourront peut-être. Mais toi, jeune homme, ils ne t'auront pas. » Le traîneau filait maintenant derrière les chiens qui haletaient d'enthousiasme car ils savaient que pour eux le salut était dans le chenil du Fort McGurry. Mais les loups n'avaient pas été loin. Et c'est ouvertement qu'ils avaient désormais repris leur poursuite. Ils trottinaient tranquillement derrière le traîneau, où, rangés en file parallèle, leurs langues rouges pendantes, leurs flancs maigres ondulant sur leurs côtes qui se dessinaient à chacun de leurs mouvements, et Henri ne pouvait s'empêcher d'admirer qu'ils fussent encore capables de se tenir sur leurs pattes sans s'effondrer sur la neige. À midi, vers le sud, ce ne fut pas seulement un reflet du soleil qui apparut, mais l'astre lui-même. Pâle et doré, sa partie supérieure émergea de l'horizon. Henri vit là un heureux présage. Le soleil était revenu et les jours allaient grandir. Mais sa joie fut de courte durée. Presque aussitôt, la lumière se remit à baisser et il s'occupa sans plus tarder de s'organiser pour la nuit. Les quelques heures de clarté grisâtre et de terne crépuscule qu'il avait encore devant lui furent utilisées à couper, pour le foyer, une quantité de bois considérable. Avec la nuit, la terreur revint à son comble. Le besoin de sommeil, pire que la peur des loups, tenaillait Henri. Il s'endormit malgré lui, accroupi près du feu, les couvertures sur ses épaules, sa hache entre ses genoux, un chien à sa droite, un chien à sa gauche. Dans cet état de demi-veille où il se trouvait, il apercevait la troupe entière qui le contemplait comme un repas retardé, mais certain. Il lui semblait voir une bande d'enfants réunis autour d'une table servie, attendant qu'on leur permît de commencer à manger. Puis, comme machinalement, ses yeux retombaient sur lui-même, et il examinait son corps avec une attention bizarre qui ne lui était pas habituelle. Il tâtait ses muscles et les faisait jouer, s'intéressant prodigieusement à leur mécanisme. À la lueur du foyer, il ouvrait, étendait ou refermait les phalanges de ses doigts. Émerveillé de l'obéissance et de la souplesse de sa main, qui, avec rudesse ou douceur, trépidait à sa volonté jusqu'au bout des ongles. Et, comme fasciné, il se prenait d'un incommensurable amour pour ce corps admirable auquel il n'avait jusque-là jamais prêté attention. D'une tendresse infinie pour cette chair vivante, destinée bientôt à repaître les brutes, à être mise en lambeaux. Qu'était-il désormais ? Un simple mets pour des crocs affamés, une subsistance pour d'autres estomacs, l'égal des élans et des lièvres dont il avait tant de fois lui-même fait son dîner. À quelques pieds devant lui, pensive, la louve aux reflets rouges était assise dans la neige et le regardait. Leurs regards se croisèrent. Il comprit sans peine qu'elle se délectait de lui par anticipation. Sa gueule s'ouvrait avec gourmandise, découvrant les crocs blancs jusqu'à leurs racines. La salive lui dégoûtait des lèvres et elle se pourléchait de la langue. Un spasme d'épouvante secoua Henri. Il fit un geste brusque, se saisit d'un brandon et le lança à la louve. Mais celle-ci s'éclipsa non moins rapidement. Alors il se remit à contempler sa main avec adoration, à examiner l'un après l'autre tous ses doigts, et comme il s'adaptait avec perfection aux rugosités de la branche qu'il brandissait. Puis, comme son petit doigt courait risque de se brûler, il le replia délicatement un peu en arrière de la flamme. La nuit s'écoula cependant sans accident, et le matin parut. Pour la première fois, la lumière du jour ne dispersa pas les loups. Vainement, l'homme attendit leur départ. Ils demeurèrent en cercle autour de lui et de son feu, avec une insolence qui brisa son courage, revenu avec la clarté naissante. Il tenta cependant un effort surhumain pour se remettre en route. Mais à peine avait-il replacé son traîneau sur le sentier et s'était-il écarté de quelques pas de la protection du feu, qu'un loup, plus hardi que les autres, s'élança vers lui. La bête avait mal calculé son élan. Son saut fut trop court. Ses dents claquant se refermèrent sur le vide, tandis qu'Henri, pour se préserver, faisait un bond de côté. Puis reculant vers le feu, il fit pleuvoir une mitraille de Brandon sur les autres loups qui, excités par l'exemple, s'étaient dressés et s'apprêtaient déjà à se jeter sur lui. Il demeura assiégé toute la journée. Comme son bois menaçait de s'épuiser, il étendit progressivement le foyer vers un énorme sapin mort qui s'élevait à peu de distance et qu'il atteignit de la sorte. Il abattit l'arbre et passa le reste du jour à préparer branches et fagots. La nuit revint aussi angoissante que la précédente, avec cette aggravation que le besoin de dormir devenait, pour l'homme, de plus en plus insurmontable. Henri, dans sa somnolence, vit la louve s'approcher de lui à ce point qu'il n'eut qu'à la saisir un brandon allumé pour le lui planter d'un geste mécanique en plein dans la gueule. En un brusque ressaut, la louve hurla de douleur. Il sentit l'odeur de la chair brûlée et regarda la bête secouer sa tête avec fureur. Puis, de crainte de s'abandonner trop profondément au sommeil, Henri attacha à sa main droite un tison de sapin afin que la brûlure de la flamme le réveillât lorsque la branche serait consumée. Il recommença plusieurs fois l'opération. Chaque fois que la flamme, en l'atteignant, le faisait sursauter, il en profitait pour recharger le feu et envoyer au loup une pluie de brandons incandescents qui les tenait momentanément en respect. Un moment vint pourtant où la branche mal liée se détacha de sa main sans qu'il s'en aperçût. Et, s'étant endormi, il rêva. Il lui sembla qu'il se trouvait dans le Fort McCurry. L'endroit était chaud, confortable, et il jouait avec l'argent de la factorerie. Le fort était assiégé par les loups qui hurlaient à la grille d'entrée. Lui et son partenaire s'arrêtaient de jouer par instants pour écouter les loups et rire de leurs efforts inutiles. Mais un craquement se produisit soudain. La porte avait cédé et les loups envahissaient la maison, fonçant droit sur lui et sur la jambe, en redoublant de hurlements tellement qu'il en avait la tête comme brisée. À ce moment, il s'éveilla, et la réalité fit suite au rêve. Les loups hurlants étaient sur lui. Déjà l'un d'eux avait refermé ses crocs sur son bras. D'un mouvement instinctif, Henri sauta dans le feu, et le loup lâcha prise, non sans laisser dans la chair une large déchirure. Alors commença une bataille de flammes. Ses épaisses moufles protégeant ses mains, Henri ramassait les charbons ardents à pleine poignée et les jetait en l'air dans toutes les directions. Le campement n'était qu'un volcan en éruption. Henri sentait son visage se tuméfier, ses sourcils et ses cils grillaient, et la chaleur qu'il éprouvait aux pieds devenait intolérable. Un brandon dans chaque main, il se risqua à faire quelques pas en avant. Les loups avaient reculé. Il leur lança ses deux brandons, trépigna dans la neige pour se refroidir les pieds, puis en frotta ses moufles carbonisées. Il ne restait plus trace des deux chiens. Ils avaient continué de toute évidence à alimenter le repas inauguré par les loups, il y avait plusieurs jours avec boule de suif. Vraisemblablement, il subirait sous peu le même sort. « Mais vous ne m'avez pas encore » cria-t-il d'une voix sauvage aux bêtes affamées qui lui répondirent par une agitation générale et des grognements répétés. Mettant à exécution un nouveau plan de défense, il forma un cercle avec une série de fagots alignés à la file et qu'il alluma. puis il s'installa au centre de ce rempart de feu, se coucha sur une épaisseur de branchages afin de se préserver de l'humidité glaciale et de la neige fondante que liquéfiait sur le sol la chaleur du brasier, et demeura immobile. Ne le voyant plus, les loups vinrent s'assurer à travers le rideau de flammes que leur proie était toujours là. Rassurés, ils reprirent leur attente patiente, se chauffant au feu bienfaisant, en s'étirant les membres et en clignotant béatement des yeux. La louve s'assit sur son derrière, pointa le nez vers une étoile et commença un long hurlement. Un à un, les autres loups l'imitèrent et la troupe entière, sur son derrière, le nez vers le ciel, hurla à la fin. L'aube vint, puis le jour. La flamme brûlait plus bas. La provision de bois était épuisée et il allait falloir la renouveler. Henri tenta de franchir le cercle ardent qui le protégeait, mais les loups surgirent aussitôt devant lui. Pour les écarter, il leur lança quelques brandons qui se contentèrent d'éviter sans en être autrement effrayés. Il dut renoncer au combat. Vacillant, l'homme s'assit sur son espèce de matelas et ses couvertures. Il laissa tomber sa poitrine sur ses genoux comme si son corps eût été cassé en deux. Sa tête pendait vers le sol. C'était l'abandon de la lutte. De temps à autre, il relevait légèrement la tête pour observer l'extinction progressive du feu. Le cercle de flammes et de braises se sectionnait par segments qui diminuaient l'étendue et entre lesquels s'élargissaient des brèches. « Je crois, murmura-t-il, que bientôt vous pourrez venir et m'avoir. Qu'importe à présent, je vais dormir. » Une fois encore, il entr'ouvrit les yeux et ce fut pour voir par une des brèches la louve qui le regardait. Combien de temps dormit-il? Il n'aurait su le dire. Mais lorsqu'il s'éveilla, il lui parut qu'un changement mystérieux s'était produit autour de lui. Un changement à ce point étrange et inattendu que son réveil en fut brusqué sur le champ. Il ne comprit point d'abord ce qui s'était passé. Puis il découvrit ceci. Les loups étaient partis. Seul le piétinement pressé de leurs pattes imprimées sur la neige lui rappelait le nombre et l'acharnement de ses ennemis. Mais, le sommeil redevenant le plus fort, il laissa retomber sa tête sur ses genoux. Mêlés au bruit de traîneaux qui s'avançaient, à des craquements de harnais, à des halètements époumonés de chiens de trait, ce furent cette fois des cris d'hommes qui le réveillèrent. Quatre traîneaux, quittant le lit glacé de la rivière, venaient en effet vers lui à travers les sapins. Une demi-douzaine d'hommes l'entouraient quelques instants après. Accroupi au milieu de son cercle de feu qui se mourait, il le regarda comme hébété et balbutia, les mâchoires encore empâtées, « La louve rouge !» Venu près des chiens au moment de leur repas. Alors d'abord elle mangea les chiens, puis elle mangea Bill. Mais où est l'ordre, Alfred ? Beucla un des hommes à son oreille en le secouant rudement. Il remua lentement la tête. Non, non, lui, elle ne l'a pas mangé. Il pourrit sur un arbre au dernier campement. Mort ? Cria l'homme. Oui, et dans une boîte. Répondit Henri. Il dégagea vivement son épaule de la main du questionneur. Hey, dites donc, laissez-moi tranquille, je suis vidé à fond, et bonsoir à tous. Ses yeux clignotants se fermèrent, son menton rejoignit sa poitrine, et tandis que les nouveaux arrivés l'aidaient à s'étendre sur les couvertures, ses ronflements montaient déjà dans l'air glacé. Une rumeur lointaine répondait à ses ronflements. C'était, affaibli par la distance, le cri de la troupe affamée des loups à la recherche d'une autre viande destinée à remplacer l'homme qui leur avait échappé.